Évoquer l'obéissance dans le monde contemporain est quelque chose d'à la fois décevant. En effet, l'autorité a perdu toute dignité, en particulier l'autorité politique, fondée qu'elle est sur la délégation de pouvoir de ceux qui y sont soumis. C'est d'autre part quelque chose de banal. L'obéissance semble en effet un postulat évident et indispensable de toute vie sociale. Ainsi, l'obéissance s'est-elle profondément transformée de manière proportionnelle à la subversion moderne de l'autorité. Le positivisme juridique et l'athéisme qui le fonde en ont fait une soumission extérieure, d'autant plus absolue qu'elle repose sur un ordre purement humain. La philosophie traditionnelle ne l'entendait pas ainsi. L'obéissance était pour elle soumission, certes, mais soumission intérieure et limitée à une autorité qui tirait sa légitimité de son enracinement dans un ordre naturel et divin. Nous nous efforcerons donc de restaurer en quelque sorte la véritable notion d'obéissance en examinant le discours de la tradition chrétienne, en particulier celui de saint Thomas d'Aquin sur ce sujet, dans un premier temps en dégageant le fondement et le rôle de l'autorité, particulièrement bien sûr de l'autorité politique, dans un second temps, en essayant de manifester la nature véritable de l'obéissance et ses limites. Partons du principe. Le principe est exposé très clairement par Aristote au livre premier de sa Politique, chapitre 2. L'homme est par nature, dit-il, un animal politique. Je ne gloserai pas sur ce sujet, je l'avais fait l'an dernier. Mais disons simplement qu'Aristote veut signifier par là bien plus qu'une simple constatation. Il veut manifester qu'il est essentiel à l'homme d'être parti du tout politique. Autrement dit, que l'homme trouve sa perfection proprement humaine en devenant partie de la police ou de la communauté politique. Pourquoi ? Parce que c'est au sein de la communauté politique que l'homme se soumet à des lois. Or, les lois sont la condition de l'éducation, et de l'éducation qui produit elle-même les vertus morales et intellectuelles, et se soumettant aux lois, l'homme va être rapporté au bien commun. Et il va dépasser par là un souci qui est en grande partie fondé sur l'affection ou sur la consanguinité, qui est le souci du père de famille. Quand je me dévoue au bien commun de la cité et non plus à celui de ma famille, je le fais non pas parce que j'aime naturellement mes enfants, mais parce que j'aime volontairement les autres citoyens avec lesquels je vis, parce que je perçois qu'il y a là, de fait, une communauté plus élevée que celle de la famille, que j'ai avec eux un lien moral, que j'ai une dette de justice à leur égard, et que la cité m'amène ainsi à mon véritable bien, à la fois moral et intellectuel. Ce point a été tout à fait occulté, y compris dans la philosophie traditionnelle. J'en ai eu un exemple fort récent. Un de nos étudiants m'a soumis un texte tiré d'un manuel de philosophie datant de 1920, imprimé par l'Institut de philosophie de Louvain. Pour ceux qui ont quelques connaissances, et sans doute vous êtes nombreux à avoir ce type de connaissances, l'Institut de Louvain a été quand même un des moteurs de la Renaissance thomiste. Or, ce manuel se termine par une page qui fait l'apologie de la famille, se doublant évidemment d'une violente critique contre l'État. Et l'auteur vient à dire la chose suivante, « La famille a sa propre fin et ses propres droits. » Je me demande, dans cette mesure-là, comment un père de famille peut supporter, par exemple, que son enfant doive faire son service militaire, éventuellement risquer sa vie pour la communauté politique, si la famille a en elle-même sa propre fin. On a complètement occulté cette dimension politique de l'homme. Et on l'a réduit, on le comprend assez facilement, on l'a réduit à ses inclinations très biologiques, d'une certaine manière. Car l'inclination à fonder une famille est fondée très biologiquement, très physiquement, dans la différence des sexes. Bien sûr, la famille dépasse une communauté de vie biologique, elle a une finalité morale et intellectuelle, évidemment, mais en réduisant l'homme à être animal familial, et en ne voyant plus qu'il est aussi, et principalement, animal politique, on a omis cette dimension radicalement humaine, cette dimension morale et intellectuelle de l'homme, qui, encore une fois, ne s'accomplit qu'au sein de la société politique. J'indique que le premier, je pense que c'est le premier à l'avoir fait dans la tradition, notamment dans la tradition catholique, est Duns Scot. Duns Scot est le premier à insister sur la naturalité de la famille et au contraire à ne parler jamais de la naturalité de la société politique. Il est le premier également dans la tradition, nous sommes au début du XIVe siècle, il est le premier également dans la tradition chrétienne à insister sur le consensus, le consentement des sujets et même l'élection d'une certaine manière comme critère de légitimité de l'autorité. Ensuite, cette tradition s'est prolongée, Scott a été repris, Suarez a fait un mix de saint Thomas et de Scott, et c'est cela qu'on a enseigné dans les séminaires, et qui a été repris, beaucoup développé au XIXe siècle, ce qui vous explique, pour une part, les discours, y compris les discours ecclésiastiques, que nous entendons de manière tout à fait contemporaine. L'homme est donc un animal politique. Or, toute société humaine réclame une autorité, tout simplement parce que la société suppose une multitude de membres. Nous ne faisons pas société à nous tout seuls, et ces membres qui sont des hommes sont libres. Autrement dit, leurs actes ne sont pas déterminés naturellement. Il faut donc qu'existe une autorité qui va ramener la diversité des actes des citoyens à l'unité de la fin, la communauté politique, c'est-à-dire le bien commun. Je citerai, je vais essayer de ne pas trop citer de texte, l'exercice est évidemment pénible, mais je veux quand même donner quelques références précises. Je cite un court texte de saint Thomas pris de son commentaire sur la politique d'Aristote. Il existe une fin à laquelle toute la vie et l'action humaine sont ordonnées, puisque l'homme agit par l'intelligence, dont le propre est manifestement d'agir en vue d'une fin. Or, il arrive que les hommes tendent de différentes manières à la fin recherchée, ce que la diversité même des études et des actions humaines manifeste. C'est pourquoi l'homme a besoin de quelqu'un qui le dirige à sa fin. L'argument est très simple, les hommes agissent librement, vous n'êtes pas déterminés à faire des études de plomberie, pas plus que de philosophie ou d'histoire. Or, il y a une fin, c'est le bien de la communauté politique, et il faut qu'on proportionne les actions des citoyens entre eux, il faut donc qu'existe une autorité. L'homme est par nature un animal politique. Qui a fait la nature ? Dieu. Dieu a fait l'homme, naturellement, animal politique. Et ayant fait l'homme animal politique, Dieu a voulu que les hommes soient soumis les uns aux autres. Là encore, je cite un court texte de saint Thomas, « Si certes il convenait à l'homme de vivre seul, comme à beaucoup d'entre les animaux, il n'aurait besoin de personne d'autre qui le conduise à sa fin. En tant que par la lumière de la raison, qui lui est donnée divinement, il se dirigerait lui-même dans ses actes. » Mais n'oubliez pas la proposition de départ, « Si certes il convenait à l'homme de vivre seul. » Or, précisément, il ne convient pas à l'homme de vivre seul. Et donc, il faut qu'existe une autorité. En ce sens, et c'est le sens le plus profond, le fondement de l'autorité est divin. Le fondement de l'autorité est divin, c'est la parole de saint Paul qu'on comprend bien mal. « Non est enim potestas, nisi adeo. » Il n'y a de puissance que par Dieu, qu'à partir de Dieu. Il n'y a de puissance qu'une puissance qui trouve son origine en Dieu. C'est là le sens. Arrêtons-nous quelques instants au commentaire de saint Thomas sur ce passage. Saint Thomas, dans son commentaire des Épîtres de saint Paul, s'arrête, évidemment, sur ce point, et distingue trois sens. Trois sens. Que veut dire saint Paul ? Premièrement, saint Paul veut dire, très évidemment, que Dieu est créateur. Dieu est créateur. Et tout ce que possède une créature, l'homme est une créature, tout ce que possède l'homme, donc une créature, vient de Dieu, trouve son origine en Dieu. Par conséquent, il n'y a de puissance que de Dieu, qu'à partir de Dieu, cela signifie que si l'homme a le pouvoir de gouverner un autre homme, il le tient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait les hommes ainsi, avec leur nature rationnelle et leur nature politique, et par voie de conséquence, l'autorité humaine trouve là son fondement véritablement ontologique, pouvait-on dire. Saint Thomas distingue un second sens. Il n'y a de pouvoir que de Dieu, en tant que la puissance, en tant que le pouvoir, est dévolu selon l'ordre établi par Dieu. Selon l'ordre établi par Dieu. Enfin, troisième sens, en tant que la puissance est utilisée selon les préceptes de la justice divine. Il y a un lien entre ces trois sens, car il est évident que si l'autorité trouve son fondement en Dieu, l'usage, bien sûr, de l'autorité et sa dévolution vont dépendre également de l'ordre établi par Dieu. Arrêtons-nous quelques instants à cet usage et à cette dévolution. D'abord, la dévolution. Qu'entend saint Thomas quand il dit que le pouvoir doit être dévolu doit être réparti selon l'ordre établi par Dieu. Saint Thomas entend que Dieu a fait les hommes inégaux, et que par voie de conséquence, l'autorité, bien sûr, doit revenir à ceux qui sont supérieurs. Cette inégalité existait dès l'état d'innocence. Je cite un texte tiré de la Somme théologique. Vous verrez que toute la tradition s'accorde sur ce point. L'apôtre, il s'agit de saint Paul, l'apôtre dit en Romains 13:1 que ce qui est produit par Dieu est ordonné. Or, l'ordre semble consister principalement dans l'inégalité. En effet, saint Augustin dit au livre 19 de la Cité de Dieu, « L'ordre est la disposition des choses égales et inégales, attribuant à chacune sa place. » Donc, dans l'état premier, il s'agit de l'état d'innocence, que je ne dirais pas état de nature, car ce n'était pas un état de pure nature. La tradition n'appellera jamais l'état d'innocence état de nature. Le mot état de nature est un mot tout à fait piégé, tout à fait ambigu, qui naît au XVIIe siècle, comme on vous l'a dit. Or, dans l'état premier, dit-il, qui a été l'état le plus ordonné, il existait donc une inégalité. Cette inégalité est non seulement une inégalité de nature, c'est aussi une inégalité de vertu. Et là encore, si nous nous référons à ce que dit saint Thomas quant à l'état d'innocence, avant le péché originel, il constate que même sans le péché originel, il aurait existé parmi les hommes une inégalité de vertu, aussi bien dans l'ordre pratique que dans l'ordre intellectuel. Un court texte. En effet, dans cet état, l'homme n'agissait pas mu par la nécessité, mais mu par son libre arbitre. Autrement dit, même avant le péché originel, l'homme était libre, bien entendu. Or, le libre arbitre donne à l'homme le pouvoir d'appliquer plus ou moins son esprit à faire, vouloir ou connaître quelque chose. Par conséquent, dans cet état d'innocence, certains auraient progressé plus que d'autres dans la justice et dans la science. Voilà ce qu'il entend quand il glose le texte de saint Paul et qu'il dit que le pouvoir doit être dévolu selon l'ordre voulu par Dieu. L'ordre voulu par Dieu est le fait que les hommes sont inégaux. Non seulement par nature, il y a des inférieurs et des supérieurs, mais les hommes étant libres et les hommes ayant des dispositions naturelles différentes vont être susceptibles d'acquérir des vertus elles-mêmes différentes. Il va de soi que c'est l'homme le mieux disposé à la fois naturellement et de manière acquise, c'est-à-dire du côté de ses vertus, qui devra avoir l'autorité et qui devra gouverner. Je crains la guillotine, mais je citerai quand même un autre texte qui me semble fort intéressant. Il est pris de saint Jean Chrysostome dans ses homilies sur l'épître aux Romains de saint Paul. Il s'agit de l'homilie 23. On dirait que saint Jean Chrysostome a lu Hobbes avant la lettre. L'égalité de pouvoir, conduisant souvent à la guerre. Vous avez là le principe même qui fait tous les modernes, notamment Hobbes et même Locke. Fait que l'état de nature soit est purement et simplement un état de guerre, soit devient, chez Locke, tout de suite un état de guerre. Parce que les hommes sont égaux. Or, Dieu n'a pas fait les hommes pour être en guerre les uns avec les autres, c'est pourquoi il les a fait inégaux. Saint Jean Chrysostome continue, « L'égalité de pouvoir conduisant souvent à la guerre, Dieu a établi de multiples autorités et de multiples soumissions, subjectiones, celles de l'homme et de la femme, du fils et du père, du vieillard et du jeune homme, de l'esclave et de l'homme libre, du prince et du sujet, du maître et du disciple. Et qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'il ait fait cela parmi les hommes, alors qu'il le fit dans le cœur humain? En effet, là, il ne produisit pas toutes les parties d'une égale dignité, mais celle-ci moindre, celle-là meilleure, et il ordonna que certaines commandent et d'autres obéissent. La métaphore ou l'analogie se retrouve déjà chez saint Paul, qui compare les différentes fonctions dans l'Église aux différentes fonctions des parties du corps humain. De fait, le pied est moins noble que l'œil, mais chaque partie a son office à remplir, et si chaque partie avait le même office, l'homme ne pourrait exister, bien évidemment. Saint Jean Chrysostome continue pour manifester que c'est vraiment un principe cosmique. Ce principe d'inégalité, Dieu s'en est servi en quelque sorte, l'a appliqué dans la constitution de l'ensemble de l'univers, et les hommes n'y échappent pas. La même hiérarchie apparaît aussi chez les animaux dépourvus de raison, comme chez les abeilles, les grues et parmi les troupeaux de brebis sauvages. La mer n'est pas privée non plus de ce bon ordre, mais là de nombreux genres de poissons s'ordonnent et combattent sous le commandement d'un chef, et ainsi entreprennent de longues migrations. Peut-être songeait-il aux remontées des saumons, par exemple. Car partout, partout où n'existe aucune autorité, règne le mal et le désordre. Troisième sens, Saint Thomas dit que le pouvoir vient de Dieu, il n'y a de pouvoir qu'à partir de Dieu, en tant que l'usage du pouvoir doit être réglé, déterminé, selon les préceptes de la justice divine. Qu'est-ce à dire? Tout simplement, d'abord, que l'autorité vise le bien commun. S'il existe une autorité, ce n'est pas pour le bien de celui qui gouverne, c'est pour le bien des gouvernés, c'est pour le bien de l'ensemble. L'autorité doit donc viser le bien commun. Mais qu'est-ce que le bien commun? Est-ce que c'est une définition arbitraire? Est-ce que c'est un objet que celui qui possède l'autorité peut définir comme bon lui semble? Ou a-t-il un fondement tout à fait naturel et même surnaturel? Bien sûr, c'est la seconde réponse qui est la bonne. Le bien commun n'est pas quelque chose qui se détermine arbitrairement. Il est déterminé par nature. Et sa grande règle dans l'ordre naturel sera ce fameux droit naturel, ce justum naturale, que saint Thomas reprend aux Romains. Saint Thomas qui, quoique théologien, je crois, a bien parlé du droit, il me semble, que saint Thomas reprend aux Romains, et ce justum naturale, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est proportionné à l'homme en fonction de sa nature. Quand les juristes romains, tels Gaius, énumèrent cet objet, ce justum naturale, eh bien, ils citent évidemment l'union entre hommes et femmes, l'éducation des enfants, et puis la vie politique, et saint Thomas ajoutera le désir de connaître, et spécialement, principalement, le désir de connaître Dieu. Le pouvoir, l'autorité, va donc essayer d'amener la communauté politique à son bien, non pas arbitrairement, mais en fonction de la nature humaine et des inclinations inscrites dans la nature humaine. Second point, ce bien commun ne se limite pas là. En effet, entre Aristote et saint Thomas, il y a la révélation. Et jusqu'à preuve du contraire, un chrétien ne peut en faire abstraction. Par voie de conséquence, quand saint Thomas parle du bien commun de la communauté politique, il n'entend pas seulement le bien de l'ordre naturel. Il entend aussi le bien de l'ordre surnaturel. Je cite un court texte pris du De Regimine. La fin de la vie que nous menons en vivant bien dans le présent étant la béatitude céleste, il appartient à l'office du roi pour cette raison. Autrement dit, parce que la vie présente n'est qu'un voyage, n'est qu'un passage vers la béatitude céleste, il appartient à l'office du roi pour cette raison de procurer la vie bonne de la multitude selon qu'elle est proportionnée à atteindre la béatitude céleste. Il s'agit de la vie bonne, selon que cette vie est proportionnée, est adéquate à atteindre la béatitude céleste. De telle sorte qu'il commande ce qui conduit à la béatitude et interdit ce qui est contraire en autant qu'il est possible. Vous en avez une illustration très claire dans les enseignements de Saint-Louis, ce qu'on appelle improprement le testament de Saint-Louis. Saint Louis assigne à son fils un triple but, faire régner la justice, ça c'est pour l'ordre naturel, protéger l'Église et gens d'Église, comme il dit, et ensuite extirper le péché et l'hérésie. Et cela, c'est la fonction d'un monarque. C'est la fonction d'un monarque. Et par voie de conséquence, il faut bien le souligner et le comprendre, le pouvoir politique a une fonction éminemment religieuse. Il a une fonction éminemment religieuse, l'Église le redira sans cesse, en quelque sorte, au moins jusqu'au pape Pie IX, qui véritablement est en pleine continuité avec toute cette tradition médiévale, en particulier avec saint Thomas, et qui insiste en disant que le devoir principal des princes est de pourvoir à la christianisation de leurs sujets. C'est là qu'est leur devoir principal. Et le reste, en quelque sorte, comme dit l'Évangile, viendra par surcroît. C'est là encore une vérité qui a été très occultée. Très occultée, je pense entre autres à l'ouvrage que vous connaissez tous, de Lagarde, sur la naissance de l'esprit laïque à la fin du Moyen-Âge. Lagarde produit une œuvre de 5 volumes, et dans ces 5 volumes, il entreprend de montrer les prodromes de la laïcisation de la société dès le Moyen-Âge, et d'abord il fait en quelque sorte l'état de la question, et il consacre un chapitre à saint Thomas. Or ce chapitre est faux. Ce chapitre est faux, et il propose saint Thomas, il présente saint Thomas comme un héritier d'Aristote. Or chacun sait qu'Aristote a développé une politique naturelle. Et par voie de conséquence, dit-il, saint Thomas, suivant Aristote, suivant la philosophie grecque, ce qui était très nouveau, moderne, presque au XIIIe siècle, a développé lui aussi une politique naturelle. et à développer le pouvoir, les finalités de l'État, sous-entendez, sans mentionner d'aucune manière, la fonction religieuse. Or, les textes de saint Thomas sont obvis, encore une fois, un chrétien, a fortiori un théologien, ne peut faire autrement. Le pouvoir politique doit bien sûr tenir compte de la révélation, et doit bien sûr se soumettre à Jésus-Christ, et mettre son autorité au service de Jésus-Christ, en autant qu'il est possible, a précisé le texte, il est évident que ce n'est pas le prince qui va prêcher ou qui va distribuer les sacrements, ou même qui va utiliser tous les moyens qui sont de son ressort. Il y a une question de prudence. Mais il n'empêche que sa finalité et sa fonction est quand même éminemment religieuse. Que conclure ? Je conclue ma première partie. La guillotine commence à descendre. Que conclure ? Simplement que l'autorité politique est une grande chose. L'autorité politique est une grande chose. Elle conduit les hommes au bien commun, et ce bien commun lui-même les dispose à leur bien ultime, à savoir la béatitude céleste. Les mœurs démocratiques ont sali cela. Ils ont sali le pouvoir, et ils l'ont ravalé justement à être le fruit de l'ambition humaine, et à être une espèce de mercantilisme, de recherche mercantile des intérêts temporels. Par contre, la tradition ecclésiastique, dès son origine, ne l'a jamais entendu ainsi. Elle a toujours loué le pouvoir et chanté en quelque sorte ses grandeurs. Je cite un premier texte qui est de saint Clément de Rome. Saint Clément de Rome est le quatrième pape, consacré par saint Pierre lui-même. Nous sommes donc aux origines du christianisme. Voici ce qu'il dit, c'est dans sa première épître aux Corinthiens. Il s'adresse à Dieu. « C'est toi, maître, qui leur a donné le pouvoir de la royauté, par ta magnifique et indicible puissance, afin que, connaissant la gloire et l'honneur que tu leur as départis, nous leur soyons soumis et ne contredisions pas ta volonté. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. Car c'est toi, maître, céleste roi des siècles, qui donnes aux fils des hommes gloire, honneur, pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété dans la paix et la mansuétude le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. » Donc voyez, nos modernistes ou nos progressistes tout à fait contemporains qui veulent revenir aux origines du christianisme devraient exalter le pouvoir politique. L'exalter, c'est une chose merveilleuse que Dieu a donnée aux hommes, et le pape demande, et les chrétiens doivent demander pour leurs gouvernants la santé, la paix, la concorde, la stabilité, car ces gouvernants remplissent une fonction éminente. Deuxième texte que j'ai choisi de manière médiane entre les origines du christianisme et saint Thomas, encore saint Jean Chrysostome, toujours dans le même lieu. Épître aux Romains, homélie 23e. Le pouvoir a donc pour mission de nous seconder et de nous venir en aide. Et c'est à cette fin que Dieu l'a établi. C'est pourquoi, de part et d'autre, il est vénérable. Il s'agit du pouvoir politique. Il est vénérable. Et parce qu'il est établi par Dieu, et parce qu'il vise cette tâche. L'apôtre dit, et si vous faites le mal, craignez. Saint Jean Chrysostome commente, ce n'est donc pas le prince qui suscite la crainte, mais notre perversité. L'apôtre continue, « Donc le pouvoir ne porte pas le glaive en vain. » Saint Jean Chrysostome glose, « Voyez comment l'apôtre vous le représente, armé comme un certain soldat, le montrant terrible aux pécheurs. » Saint Paul ajoute, « Il est le ministre de la colère et de la vengeance divine à l'égard de celui qui fait le mal. » Et Saint Jean Chrysostome termine, « En entendant parler de châtiment, de supplice et de glaive, ne frémissez pas. » Car l'apôtre dit de nouveau que le pouvoir accomplit la loi de Dieu. Dernier texte sur ce point, saint Thomas, évidemment, dans le De Regimine. Le texte est fort significatif, vous allez le voir. N'importe quelle personne privée est louée par les hommes, et Dieu l'en récompensera, si elle vient au secours de l'indigent, si elle apaise les discordes, si elle délivre l'opprimé, de plus puissant que lui. Bref, si elle contribue par quelque action ou conseil au salut de quelqu'un. C'est pourquoi, combien plus celui qui fait se réjouir de la paix toute une province, contient les violences, rend la justice, et dispose par ses lois et ses préceptes ce que les hommes doivent faire, doit être loué par les hommes et récompensé par Dieu. La grandeur de la puissance royale apparaît aussi de ce qu'elle porte principalement la similitude de Dieu, tandis qu'elle produit dans le royaume ce que Dieu fait dans le monde. C'est pourquoi dans l'Exode aussi, les juges de la multitude sont appelés des dieux. Et voici peut-être la phrase la plus significative. Les empereurs romains étaient appelés également des dieux. Et saint Thomas ne critique pas. Le christianisme le reprend à son compte. Bien sûr, l'empereur n'est pas Dieu, au sens premier du mot, mais il est tellement supérieur aux hommes de par la fonction qu'il exerce, de par la médiation dont tout son rôle est l'essence, la médiation qu'il effectue entre Dieu et les hommes, qu'il mérite d'être appelé un Dieu, qu'il mérite d'être appelé quelque chose de divin. Saint Thomas termine, « Or quelque chose est d'autant plus agréable à Dieu qu'il lui ressemble davantage. » Ainsi l'apôtre avertit aussi, « Soyez les imitateurs de Dieu comme ses fils bien-aimés. » Mais si, selon la sentence du sage, il ne s'agit pas du philosophe, c'est pas Aristote, c'est du sage, c'est-à-dire de l'auteur de l'Ecclésiastique, l'Ecclésiaste. Si, selon la sentence du sage, tout animal aime son semblable, selon que les causes portent d'une certaine manière la similitude de leurs effets, ainsi il s'ensuit que les bons rois sont très agréables à Dieu et doivent être le plus récompensés par lui. Exaltation du pouvoir. Il est évident que nous sommes baignés dans des sociétés libérales et individualistes où le pouvoir, justement, nous apparaît comme un mal. Et le pouvoir n'est pas un mal, le pouvoir est un bien, à condition, évidemment, que l'usage qui est fait de ce pouvoir vise la fin véritable de l'autorité, à savoir le bien commun fondé en nature, si je puis dire, et d'une certaine manière, en surnature. Deuxième partie. Puisqu'il y a société humaine, puisque l'homme trouve sa perfection véritablement humaine en étant partie de la communauté politique, puisque la communauté politique requiert nécessairement une autorité, et puisque l'autorité est une très grande chose, puisque Dieu a fait les hommes animaux politiques, Dieu a fait les hommes inégaux pour cette raison, afin que les supérieurs tirent en quelque sorte les inférieurs vers le bien, il est évident que les citoyens doivent obéir à l'autorité. J'en viens à mon sujet. Les citoyens doivent obéir à l'autorité, mais quelle autorité ? L'autorité dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'autorité dévolue et exercée selon l'ordre naturel et divin. Le texte qui serait à citer est l'article premier, bien évidemment, de la question 104 de la Secunda Secundae, où saint Thomas s'interroge sur l'obéissance. Rassurez-vous, je ne citerai pas le texte en son entier, je citerai simplement la conclusion du corpus. De même qu'en vertu de l'ordre naturel même divinement institué, les inférieurs, parmi les êtres naturels, doivent nécessairement être soumis à la motion des supérieurs. De même aussi dans les choses humaines, en vertu de l'ordre du droit naturel et divin. Droit naturel et divin. Les inférieurs sont tenus d'obéir à leurs supérieurs. Obéissance n'est donc pas soumission aveugle et illimitée. Là est déjà le premier point important. L'obéissance n'est pas une soumission aveugle et illimitée. Saint Thomas le dit très bien, la question 104 est lumineuse sur ce sujet, puisque dans cette même question, à l'article 5, il précise qu'un sujet n'est pas tenu d'obéir en toute chose à son supérieur. Deux raisons à cela, soit en raison du précepte d'une puissance plus élevée, autrement dit, si un monarque prend une loi, prescrit une loi qui va contre l'ordre naturel et contre la loi divine, les sujets ne sont pas tenus d'y obéir. Soit parce que le supérieur commande quelque chose en quoi l'inférieur ne lui est pas soumis. Il s'agit d'une espèce d'extension indue du pouvoir. Le 7 contrat de cet article cite la parole des Actes des Apôtres, 5:29, « Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. » Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Le commentaire des sentences, pour prolonger un petit peu et étendre notre investigation, le commentaire des sentences, vous ferez grâce de la référence précise, tout comme la somme théologique, distingueront deux mauvais usages possibles de l'autorité. Deux mauvais usages possibles. D'abord, l'imposition de charges injustes dans leur nature ou leur répartition, et l'extension indue du pouvoir à ce qui ne relève pas de lui. Très concrètement, un prince qui lève des impôts de manière disproportionnée sur ses sujets, en quelque sorte, c'est un usage mauvais de l'autorité. Que doivent faire les citoyens dans ce cas? Dans ce cas, dit saint Thomas, les sujets ne sont pas tenus d'obéir. Ne sont pas tenus d'obéir. Si ce n'est, pour éviter un scandale ou un trouble. Deuxième cas, le pouvoir s'oppose à la loi divine. Et il s'agit de la loi divine entendue aussi bien au sens de la loi naturelle que de la loi surnaturelle. La conséquence est différente. Dans ce cas, les sujets sont tenus de ne pas obéir. Et le commentaire des sentences cite les saints martyrs qui ont souffert la mort afin de ne pas obéir aux ordres impies des tyrans. Voyez bien la différence. Premier cas, on n'est pas tenu d'obéir. Second cas, on est tenu de ne pas obéir. Davantage encore, une telle autorité qui viole l'ordre naturel et divin peut être renversée. Saint Thomas va jusque-là. Le commentaire des sentences, qui, comme chacun sait, est une œuvre de jeunesse, tout comme la somme théologique quand sa secunda secundae, qui est une œuvre de maturité, on ne peut guère dire vieillesse en parlant de saint Thomas puisqu'il est mort à 49 ans, l'affirme l'un et l'autre. C'est très intéressant dans la mesure où nous sommes en quelque sorte au deux bouts, si je puis dire, de l'itinéraire intellectuel de saint Thomas. Excusez-moi. Ainsi saint Thomas, dans le commentaire des sentences, justifie Cicéron de plaider en faveur de ceux qui tuèrent Jules César. Vous savez que Cicéron en voulait beaucoup à Jules César, qu'il estimait être un tyran. Saint Thomas justifie Tullius, voilà ce qu'il dit. Tullius parle du cas où quelqu'un s'est emparé par violence du pouvoir, ses sujets ne le voulant pas ou étant contraints à y consentir, et du cas où il n'y a pas de recours à un supérieur qui rendrait un jugement sur l'usurpateur. Alors en effet, celui qui tue le tyran, le verbe utilisé est bien tué, je crois que c'est oxydite, celui qui tue le tyran pour la libération de la patrie est loué et reçoit une récompense. La somme affirmera de même, avec une nuance que je vais dire, la somme affirmera de même que la révolte, et le mot utilisé est perturbatio, la révolte contre un régime tyrannique n'est pas une sédition. Évidemment, saint Thomas prend soin, spécialement dans la somme, de préciser qu'un tel acte n'est juste qu'à condition de ne pas entraîner un mal plus grand que le mal produit par le gouvernement tyrannique. Il est bien sûr que si vous engendrez l'anarchie, vous commettez un acte tout à fait vicieux et séditieux et vous faites empirer en quelque sorte l'état de la société. Il y a une objection à cela, c'est un texte du De Regimine. En effet, dans le De Regimine, qui traite, comme vous le savez aussi, du gouvernement des princes, saint Thomas semble exclure la possibilité de l'insurrection, contrairement à ses autres textes. Il y déclare la chose suivante: « Il serait dangereux pour la multitude et ses gouvernants que certains, par un jugement privé, privata presumptionné, tuent ceux qui gouvernent, même si ce sont des tyrans. » En effet, les méchants, plus que les bons, commettent souvent des actions périlleuses de cette sorte. Or, l'autorité des rois n'est pas moins pesante habituellement aux méchants que celle des tyrans, parce que, selon la sentence de Salomon, le roi sage disperse les impies. C'est pourquoi, par un jugement de cette sorte, la multitude encourrait davantage le danger de perdre son roi qu'elle ne trouverait le remède d'être soustraite au tyran. Voyez l'argument, il est simplement de dire que si l'on donne à chacun le pouvoir de s'insurger et de s'insurger par la violence, de commettre le tyrannicide, on encourt évidemment une conséquence anarchique. Cependant, et le texte est suffisamment clair, saint Thomas ne s'oppose pas au renversement du tyran en tant que tel, mais il s'oppose à la remise à chacun, il s'agit d'un jugement privé, à la remise à chacun de la faculté de juger du caractère tyrannique du pouvoir politique. En fait, si l'on continue la lecture du texte, saint Thomas est avant tout soucieux d'éviter l'anarchie, qui est bien entendu la pire des choses. Et par voie de conséquence, s'il se refuse à accorder à chacun ce pouvoir, chacun ne peut pas décider si le pouvoir politique est de fait conforme à sa fin ou non. Par contre, il reconnaît cette faculté à la multitude. Mais attention, il s'agit de la multitude entendue de nature aristocratique. C'est de ça dont il s'agit. Ou, s'il en existe un supérieur qui aurait institué le roi Et dans ce cas-là, bien sûr, si l'aristocratie qui a désigné le roi, ou si le roi lui-même dépend d'un empereur ou d'un autre supérieur temporel, dans ce cas, le roi qui se transforme en tyran sera jugé et destitué. Je ferai une simple digression, mais qui m'est imposée, non seulement en général, mais même dans le cas particulier, puisqu'on a cité tout à l'heure le fameux adage, qui n'est pas de saint Thomas, « Le pouvoir passe par le peuple, per populum ». L'expression n'est pas de saint Thomas. L'expression n'est pas de saint Thomas. Par contre, vous trouvez chez saint Thomas l'apologie, si l'on peut s'exprimer ainsi, du régime mixte. C'est la prima secundae, question 105, article 1. Tous les auteurs glosent évidemment ce texte, ou presque tous, dans un sens bien sûr libéral. Apologie du régime mixte, le régime mixte est très connu, on sait ça depuis Polybe, depuis Aristote et toute l'Antiquité. Il s'agit de combiner les avantages des trois bons régimes. La monarchie, pour l'unité de gouvernement, l'aristocratie, pour la hiérarchie intermédiaire et la justice distributive qu'elle assure, en donnant aux gens excellents, notamment aux gens qui paient l'impôt du sang, un pouvoir tout à fait réel, et médiateur entre le roi et puis la multitude. Et enfin, l'État populaire, que saint Thomas ne nomme pas démocratie, la démocratie étant même chez Aristote une forme politique mauvaise. Donc il s'agit de combiner, et quel est l'avantage que saint Thomas veut prendre à l'État populaire? Il veut prendre l'avantage suivant, c'est que, dit-il, ceux qui gouvernent doivent être choisis par la multitude, et ils sont issus, ils doivent pouvoir être issus de la multitude. Vous vous rendez bien compte qu'à partir d'un tel propos, nous sommes directement sur la pente qui conduit à justifier la démocratie moderne. Or, l'entendre ainsi est manifestement un contresens, car il faut comprendre ce que saint Thomas entend par multitude. Il ne faut pas isoler arbitrairement un texte de son contexte, il faut au contraire le lire dans l'ensemble de la question et dans l'ensemble du traité. Quelques questions plus haut, saint Thomas, quand il a traité de la loi, a cité saint Augustin. Or, saint Augustin dit qu'il est juste, quand la multitude est vertueuse, qu'il lui soit remis le pouvoir de désigner ses gouvernants. Et saint Augustin ajoute, et saint Thomas bien sûr le reprend, quand la multitude est menée par des passions, est menée par l'ambition, ne cherche que son intérêt particulier, il est bien évident, et c'est salubre, et c'est nécessaire, qu'on doive lui retirer le pouvoir de désigner les gouvernants. Autrement dit, il s'agit, quand saint Thomas parle de multitude, non pas de n'importe quelle multitude, non pas d'une foule d'individus égaux, mais il s'agit d'une multitude composée déjà d'inférieurs et de supérieurs, et il est bien évident que c'est aux supérieurs dans cette multitude qu'il revient le pouvoir, le cas échéant, de désigner le gouvernant. Et s'il n'y a pas de multitude aristocratique qui ait désigné le roi, ou s'il n'existe pas d'empereur ou d'autres supérieurs qui désignaient le roi, que peut-on faire face à un roi qui se transforme en tyran? Il semble, mais saint Thomas est prudent, et c'est la nuance à laquelle j'ai fait allusion, il semble, selon les affirmations des lieux parallèles aux dérégiminés, aussi bien le commentaire sur les sentences que la somme théologique, secunda secundae, il semble qu'un citoyen illustre et vertueux, dont l'autorité est reconnue de ses pairs, puisse s'opposer au tyran, voire le supprimer. Je dis voire le supprimer car, curieusement, et c'est sans doute significatif, saint Thomas n'emploie pas le terme occidere, il emploie le terme perturbatio, sans préciser. C'est simplement pour une raison de bon sens, comme le montre Aristote au début de son Éthique à Nicomaque, il y a dans les choses humaines des principes qui régissent les actes, mais ces principes, pour être appliqués convenablement, demandent d'avoir le sens des circonstances. Or, si vous érigez en principe universel et qu'une autorité tyrannique doit être supprimée, c'est-à-dire tuée, il est évident, encore une fois, que vous posez un principe ambigu qui peut conduire à l'anarchie et qui en même temps dévalue l'autorité. Car si l'on peut supprimer physiquement celui qui a le pouvoir politique suprême, il est évident que l'autorité perd une grande partie de sa majesté. Donc saint Thomas réserve le cas, il parle de perturbatio sans préciser, il semble que ça puisse aller, et ça y va, ça peut aller jusqu'à la suppression physique de celui qui s'est transformé en tyran, ou ça n'y va pas forcément, saint Thomas sans doute pense, mais sans vouloir le préciser, qu'une destitution est peut-être préférable, une destitution, un jugement public est peut-être préférable, plutôt qu'une révolte sanglante. Que conclure? La guillotine s'éloigne, j'aurai fini. Que conclure? Mon propos sera double en conclusion. Premièrement, appliquons ces principes à la Révolution française. C'est le cas qui nous occupe aujourd'hui. Appliquons ces principes à la Révolution française. A-t-elle été une insurrection contre un pouvoir tyrannique? Il semble que non. Il semble que non, tant du côté de la dévolution, le pouvoir appartenait à Louis XVI en fonction d'un ordre naturel et coutumier, remontant à 8 siècles, et il semble bien que, de fait, il y avait un consensus, non pas de nature démocratique, mais il y avait une véritable union, que représenterait très bien, que manifestait très bien lors de la cérémonie du sacre les acclamations populaires, il semble bien qu'il y avait une véritable union entre le roi et ses sujets. Quant à l'usage, est-ce que Louis XVI s'était transformé en tyran, au sens propre et principal, c'est-à-dire avait subverti l'ordre naturel et l'ordre divin? Il ne semble pas non plus. On pourrait réserver l'appréciation dans le détail. Il est évident que Louis XVI était quand même imprégné pour une part des idées nouvelles, et que d'autre part, la monarchie française, depuis la monarchie absolue, au moins depuis Louis XIV et même avant, avait infléchi la monarchie traditionnelle. Il faut bien s'en rendre compte. L'Église a condamné, vous ferez remarquer, l'Église a condamné la déclaration Gallicane de 1682. Et le premier article de cette déclaration, écrite par Bossuet, pour honorer Louis XIV et pour soutenir Louis XIV dans sa lutte contre la papauté, le premier article de cette déclaration disait que le pouvoir des apôtres et le pouvoir des successeurs des apôtres et de Pierre est un pouvoir sur le spirituel, mais aucunement sur le temporel. L'Église l'a condamné. C'est la bulle Inter Multiplices d'Alexandre VIII, numéro 1322, pour ceux qui sont intéressés dans le Denzinger. Donc, sous cet aspect, bien sûr, nous pourrions dire que la monarchie française avait quand même un petit peu dévié. Mais attention, la Révolution française n'a pas visé la correction de ses défauts. Bien évidemment. Au contraire, elle a visé à détruire ce qui restait fondamentalement et essentiellement dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'incarnation politique de l'ordre naturel et divin. Ainsi, la Révolution française est bel et bien non une insurrection qu'on peut légitimer dans les cas dont nous avons parlé, mais une sédition. Une sédition pure et simple contre un pouvoir tout à fait légitime, auquel cas, vous dit saint Thomas, c'est là un péché mortel, et un péché mortel très grave, puisqu'il nuit non seulement à une personne, mais à l'ensemble de la société. Voyez, secunda secunde, question 42, article 2. Deuxième partie de ma conclusion, qui est véritablement achevée, ne craignez rien. Résumons les principes. L'obéissance est relative. L'obéissance est relative, c'est cela qu'on a oublié. Elle est certes la vertu principale des gouvernés. Nul ne le conteste, et assurément pas nous. Mais, elle tire sa grandeur de l'autorité, qui elle-même tient sa majesté, de la médiation qu'elle exerce entre Dieu et les hommes. Pour l'avoir rejetée, cette obéissance et cette autorité, la société moderne lui a substitué une soumission aveugle, dont le fondement éminemment fragile n'est que la loi positive, et dont le ressort est bien souvent la crainte, voire la lâcheté.
Merci vraiment aux conférenciers d'avoir tenu le temps, la gageure, de respecter ainsi nos délais. Merci à lui d'avoir répondu en quelque sorte, car c'était un admirable dialogue à travers deux très belles conférences, je ne dirais pas des communications, car c'était des conférences, le dialogue entre, d'une part, les constituants, les hommes de la Déclaration des droits de l'homme, et de l'autre, saint Thomas. Il y avait là un choc d'idées particulièrement excitant, particulièrement fascinant. Et avant que nous nous séparions, est-ce que quelqu'un a une question à poser, avant que nous retombions dans les nourritures terrestres, avant de quitter ces sommets, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non, vraiment, vous avez hâte de goûter les charmes gastronomiques du Quartier Latin? Eh bien, mesdames, messieurs, vous allez être très déçus. En tout cas, bon appétit et à cet après-midi.